15h de l'après-midi.
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Un homme de la nuit, un vrai, un bourlingueur, un tourlereau, un vrai poète et un penseur philosophe.
Et tout d'un coup, il peut y avoir des événements, des rencontres inattendues, des carambolages. C'est tout ça qui fait aussi le monde de la nuit, c'est intéressant.
Jeudi 19 août 16.
L'estaminet, théâtre à musiciens, analytique.
Les mains dans le cambouis, une self-plication de Michel Montpontet. Comment fabrique-t-on Mon œil ? Sa célèbre émission d'information, d'humeur, humour sur France 2, où l'inconscient des images et des sons.
Je suis avec Michel Montpontet, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Vous êtes à l'origine d'un regard déjà sur quelque chose, sur des images, puisque l'intitulé de cette émission c'est Mon œil, c'est ça ?
Ouais.
Et puis je pense que c'est une réflexion aussi sur peut-être le pouvoir des images, quelque
vous,
part.
Vous pensez ça, que c'est une réflexion sur le pouvoir des images d'abord ?
Enfin, ce que véhiculent les images et ce qu'on peut en faire, enfin ça peut être une interprétation possible.
Ouais, elle me va, elle me va. C'est un objet philosophico-ludique hein, et poiélitique hein, de regarder les images différemment, de ne pas tout gober mais tout décrypter.
D'accord.
Et on fait autant que faire se peut. Donc on essaie de faire un petit travail pédagogique dans lequel on essaie d'apprendre à sortir du piège de je crois tout, je crois rien. Qu'on essaie d'être un petit peu plus subtil. Ouais. Et ça apprend ça.
Alors là, très précisément, nous sommes à côté du lavoir à Uzest, dans le cadre du 33e festival d'Uzest. Et vous avez fait tout à l'heure ce qu'on peut appeler un atelier analytique, c'est ça ?
Oui, en fait, c'est un atelier analytique, ça me va bien. C'est-à-dire qu'on a pris un mon œil et j'ai essayé de raconter quelle était la praxis, quel était le modus operandi pour trouver, pour fabriquer, chercher les images, associer, trouver un scénario. Toutes ces choses-là que je vis 46 semaines par an. Les faire partager aux téléspectateurs et leur faire comprendre que mon œil n'est pas un objet qui se regarde d'une seule fois, c'est un objet compliqué, qu'on peut, grâce à Internet et Dailymotion et YouTube, aller le voir plusieurs fois. C'est un objet qui ne se laisse pas saisir. C'est une savonnette, hein. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Même moi, l'auteur, je suis surpris des fois de voir un truc que je n'avais pas vu, que j'avais laissé passer. J'ai aussi un inconscient.
Une auto-analyse, en fait.
C'est aussi, il doit y avoir de ça. Mais c'est aussi un journal. C'est aussi un journal dans le sens où ça raconte... c'est perméable à plein de choses qui m'arrivent dans mes lectures, dans mes rencontres, dans mes... voilà.
Alors, vous prenez plein d'images, en particulier sur Internet, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure.
On prend des images absolument de partout, Internet étant l'arrivée du tuyau, mais pas uniquement. On utilise les rushs de la rédaction. On peut récupérer l'intégralité donc des tournages, mais on ne les regarde pas de la même manière qu'un journaliste qui travaille pour le 20h et qui est donc pressé, qui a beaucoup moins de temps pour monter. Nous, on les regarde avec le temps de l'ironie. On est moins pressé. On a 3 jours pour faire des 10 minutes.
Alors comme vous le disiez tout à l'heure, donc vous avez montré 10 minutes d'un sujet de mon œil. Vous avez ensuite vous-même posé une question et vous y avez répondu sur le thème peut-être de la propagation. C'était quoi l'idée du sujet que vous avez montré ?
C'est que les images seules n'existent pas. Une image entraîne une autre image et quand on voit une image, en fait l'inconscient fait un travail d'association. On ne peut pas comprendre une image seule. Une image, c'est un jeu de cartes qui s'additionne dans l'inconscient. Cette image me rappelle, dit-on populairement. Ça me fait penser à rien du tout. C'est qu'il y a certains signes qu'émet l'image qui nous permettent de l'associer avec une autre image. Et à partir du moment où on l'a associé avec une autre image, voire avec plusieurs autres images, on peut se livrer à un travail critique. Une image seule n'a aucun sens.
Donc il y a une idée critique évidemment derrière toutes ces images que vous montrez en fait.
Que je montre, que je malaxe, que je détourne, que je presse, que je squeeze, que j'étire, que je fais sécher, que je frotte. Les images quoi.
Est-ce que vous vous sentez totalement libre dans ce que vous faites aujourd'hui à la télévision ?
À 100%. J'ai une liberté absolue. J'ai la confiance de ma direction pour l'instant. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais c'est un fait. Et je suis totalement libre de mon propos.
Même si vous recevez évidemment parfois des lettres de protestation ?
Oui, on reçoit des lettres de protestation, voire parfois des lettres de menace, mais ce n'est pas très grave. On reçoit aussi beaucoup de lettres d'encouragement. Et des gens qui disent « Tiens, je ne regardais plus la télé, j'ai vu ça, j'étais surpris. Finalement, c'est pas si pourri que ça, je vais regarder. » Voilà. Ça permet de sortir aussi le schéma simpliste de tous les journalistes CD ou tous les journalistes CPAD.
Alors nous sommes toujours en compagnie de Michel Monpontet, ici donc au Festival du Zest pour la 33e édition. On peut d'ailleurs entendre en fond la fanfare des jeunes du Zest.
La grande réussite de Bernard Lubat, la transmission.
C'est un festival que vous aviez visité, j'imagine.
J'ai peur de faire partie des meubles maintenant, c'est un peu ça. Hier soir, on était émus de voir, quand on est arrivé hier soir, et de voir, d'habitude, c'est nos amis de notre génération qui viennent nous embrasser, nous souhaiter la bienvenue. Désormais, ce sont les enfants de nos amis, qui viennent. Alors, évidemment, on prend un petit coup de vieux, mais on voit aussi que le travail politique de Bernard de transmettre sur un territoire, malgré tous les doutes qu'il a pu avoir dans son entourage géographique immédiat, il a réussi son coup, quoi. Il a réussi il a plus besoin d'être là, ça continue sans lui. Et pourtant, il est partout là, quoi.
On parlait tout à l'heure de totale liberté, enfin, vous sentez libre en tout cas. Et vous avez évoqué, juste avant de commencer, l'éviction de Porte Aiguillon de France Inter.
Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours du mal à me faire une opinion. Est-ce que Porte Aiguillon, c'est pas du tout pareil ? Il y en a un déjà qui a beaucoup plus de notoriété que l'autre. J'ai du mal à faire la différence entre la réalité d'une censure, la nécessité d'une remise à plat de la part de Jean-Luc Hesse, qui se faisait quand même bien insulter tous les matins, et de notre côté, comment est-ce que ça aurait pu être utilisé comme une gestion de carrière de la part de l'un ou de l'autre. De notre côté, voir des humoristes remerciés parce qu'ils font de l'humour, c'est toujours gênant, que ce soit le fond de propos.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas humoriste en fait.
Non, moi je suis journaliste. C'est-à-dire, je fais un journal.
Alors on peut parler justement de ce journal avec des images, mais pas simplement, il y a des commentaires et il y a de la musique aussi, une sorte d'ambiance sonore.
Il y a plus qu'une ambiance sonore. Là. Chaque élément, que ce soit le commentaire, l'image ou le son, essaie d'avoir une fonction informative essentielle. Alors évidemment, si vous arrivez à m'entendre avec tout le bruit qu'il y a autour, c'est peut-être pas facile, mais j'essaie d'amener des choses aussi par la musique, les montages musicaux, et j'ai testé, on peut s'amuser à ne pas regarder mon œil, à juste l'entendre. Après, c'est un vrai travail d'écriture qui vient en dernier. Une fois que tout est fabriqué, le samedi matin, j'écris. C'est un travail plus solitaire, qui découle des images. Mais chacun de ces trois aspects essaie d'avoir une puissance dynamisante et explicative et informative.
Alors j'imagine que le point de départ, bon, il doit y avoir des idées bien sûr derrière, mais il y a aussi donc le support des images. Ouais. Et après, le son, la musique, elle vient à la fin. Donc vous la choisissez sur quels critères en fait, la musique ?
Ben non, il n'y a pas de règle aussi non, mais moi non plus je ne savais pas. Mais je l'ai fait, donc j'ai appris à le savoir. Des fois, on entend une musique et on a envie de mettre des images dessus. J'ai pas envie d'illustrer le truc, mais tout d'un coup, il y a un climat musical qui va être encore plus fort qu'une image qui m'entraîne dans une direction. C'est pas forcément, j'ai une image fantastique et je vais mettre une illustration musicale d'ambiance. Non, non, parfois ça peut être le contraire. Ça peut être un climat musical ou un montage musical qui appelle une image, et pas le contraire.
Est-ce que la musique aussi peut véhiculer une idée dans ce que vous faites dans la rubrique Mon œil ?
Ah ouais. On avait fait les adieux de Jean-Marie Le Pen à la scène politique sur la chanson Requiem pour un con. Je peux vous dire que tout le monde l'a compris. Et j'ai pas fait le moindre commentaire.
Il y a beaucoup d'informations dans ce qu'on peut voir et entendre à la télé, puisqu'il y a les images évidemment qui sont très très fortes, qui marquent beaucoup les esprits, je pense. Ouais. Il y a donc les commentaires, le sens, la parole. Et puis il y a la musique, ça fait beaucoup d'informations. Comment le cerveau traite tout ça ?
Ben, le cerveau, déjà, il fait ce qu'il peut, quoi. C'est-à-dire, il peut pas tout prendre à la fois. Il va, si jamais on arrive à comprendre quelle est la dynamique de pensée, qu'est-ce que j'essaie de montrer, qu'est-ce que j'essaie d'éclairer différemment, déjà c'est un premier truc. Mais en tout cas, c'est un objet de télévision qui a pour prétention, et c'est là sa prétention centrale, de ne pas être vu une seule fois. C'est pas possible. Aussi éduqué soit-on à l'image, il faut le voir en plusieurs fois. Il y a plein de détails, plein de voilà. Je montrais comment, dans une image du Monoeil que j'ai expliqué cet après-midi, on voyait à la fois l'image de Spinoza, du pape, moi, l'ordinateur, image très complexe qui dure 3 secondes. Donc si on le voit pas plusieurs fois, on le voit pas. C'est vraiment un objet qui doit être revu tranquillement. Il faut avoir la manette de pause. Ah, j'avais pas vu ça. Et c'est amusant jusqu'au point qu'il y a des fois, les téléspectateurs voient des trucs dans mon œil que j'avais inconsciemment mis, évidemment, mais que je n'avais pas vu consciemment.
On parle de vitesse, justement, donc la réflexion, elle n'est pas toujours palpable dans un monde où tout va vite, finalement.
Cette phrase de Lévi-Strauss, c'est quand la peur s'arrête, la pensée commence, quoi. C'est-à-dire que plus on va vite, quand on va vite, on ne peut pas penser, il faut ralentir. On est tous en train de courir, il y a un instinct de panique dans la société, c'est une société de panique, de peur. Donc d'un côté, on met des barbelés, on expulse, on fait machin, tout va bien. Mais de l'autre côté, on est pris de terreur, que ce soit dans les bourses du monde entier, que ce soit dans les investissements, que ce soit dans les... Il y a une terreur qui monte, il y a une peur qui monte. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter, il faut penser. Socrate, il n'avait pas peur d'arriver en retard. Il disait, j'ai dû m'arrêter pour penser, quand il venait à ses réunions. Alors nous, plus modestement, on peut s'arrêter 2 minutes, essayer de comprendre, pas juste réagir, pas juste être dans la réaction et être promis à devenir réactionnaire. Penser, pas avoir peur de ce qu'on ne sait pas, c'est pas mal. Mais ça, je l'ai appris ici aussi, hein.
Alors nous sommes toujours en compagnie de Michel Monponté de la rubrique télévisuelle Mon œil. On parlait de vitesse, de réflexion, de temps. Et si c'était possible, vous avez un format de 10 minutes, est-ce que vous aimeriez développer sur plus de temps pour la réflexion?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question que je me suis posée, à laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si Mon œil ne dépend pas aussi de la nervosité du propos. C'est-à-dire s'il ne faut pas un truc très condensé, très, très rapide. Si sur un format de 26 minutes ou de 52 minutes par semaine, par exemple, on peut toujours rêver. Je ne sais pas si ça ne perdrait pas un peu de ça. Je veux que ce soit aussi un objet violent. Je veux que c'est quelque chose de la claque. Oh putain, j'ai vu ce que j'ai vu. Non, pas possible, ils n'ont pas laissé passer ça, c'est pas possible. Paf, la télécommande. Vite, on regarde si on a bien vu ce qu'on a vu. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Voilà, ça c'est un réflexe que j'aimerais bien avoir. Et j'ai peur que ça se perde dans la dilution d'un propos plus long. Plus étalé. Sur un 26 minutes, je crois que ça ne le ferait pas. Mais peut-être que je me trompe, hein. J'ai pas de certitude sur la question.
En tout cas, le temps médiatique aujourd'hui, c'est un afflux d'images, d'infos qui vont très vite, de communication surtout. Tout à l'heure, vous avez parlé d'annonces du jeudi. Les médias suivraient donc un programme de com
Les médias, ils ruminent ce qu'on leur donne à manger. Si un ministre X ou Y dit demain, il va falloir travailler jusqu'à 75 ans le jeudi après-midi, il va calculer de le dire le jeudi après-midi. Première possibilité, c'est cacher une annonce précédente en début de semaine qui pourrait être gênante. Donc on crée du scandale et on sait que ce scandale peut durer 3-4 jours. Puisque du jeudi au vendredi, les équipes des journaux télévisés changent. Donc le journaliste du rédacteur en chef du 20h, quelles que soient les chaînes, hein, va vouloir traiter l'information qui a été donnée le jeudi après-midi. Donc il y aura donc jeudi 20h, vendredi 20h. Le samedi soir, c'est un jour un peu plus mort, donc on récupère un peu les trucs de la semaine. Donc ça peut durer pendant 3-20 heures. Donc ça peut créer un vrai événement médiatique. Alors après, qui organise ça? Je pense que tous les hommes politiques sont entourés de communicants qui maîtrisent très très bien le temps de la diffusion de la nouvelle. Et dans le temps de la diffusion de la nouvelle, c'est vrai que c'est pas bon de donner une information à 20h40 parce que vous serez repris par aucun journal télévisé. Par contre, il y a vraiment un temps dans la semaine aussi. Le lundi, c'est plus laborieux. Le mardi, ça se dessine, il y a des rendez-vous, il n'y a pas d'infos. Et tout d'un coup, le jeudi, ça commence à s'accélérer. Et l'info redémarre le dimanche après-midi. Le dimanche de 17h à 21h, il y a encore une accélération. Mais là, qui ne vient pas des télés, qui vient des radios. Et c'est là qu'il le joue. Mais je pense qu'il y a cette gestion-là de la part des communicants politiques. Ouais.
On parle de radio justement, donc le jeudi, vendredi, donc il y a beaucoup d'émissions de débat sur les radios commerciales, on va dire. Ouais, ouais. Et samedi, dimanche, effectivement, c'est un peu la pause au niveau radiophonique.
Ouais. Bah, samedi et dimanche, c'est la pause jusqu'au dimanche soir. Quoi. Dimanche soir, c'est RTL, toutes les radios commerciales reprennent et les ministres ou l'opposition défilent et essaient de délivrer son message qui va être l'attaque de la semaine. Le 20h du lundi dépend de l'annonce du dimanche soir. Il y a ça, ouais. Moi, je suis un grand amoureux de la radio, ne me posez pas à la radio. Hein.
Il y a une mode en ce moment où c'est beaucoup des débats sur des épiphénomènes en quelque sorte, puisque c'est lancé par le gouvernement par exemple sur des propositions de loi qui finalement n'auront peut-être pas lieu, on ne sait pas.
Bah, si vous avez un ministre X ou Y qui dit on va supprimer les allocations familiales des parents d'enfants délinquants, ok, ça crée du scandale. Ça crée du scandale. Donc il y a du débat. Et le débat, pourquoi il y a du débat? Parce que le débat, c'est l'appareil médiatique qui coûte le moins cher. Une table et quatre chaises. Donc comme c'est pas cher, c'est moins cher que de faire un reportage, envoyer en voiture à des types filmer, prendre des photos. Non, un débat. Donc à la fois, on crée du scandale et on sait très bien la rapidité de répercussion des télévisions puisque on va pouvoir traiter cet objet-là qui est du débat. Alors pourquoi est-ce qu'on supprimerait? Mais non, mais pourquoi? Ou l'identité nationale, ou tout ce qu'on veut. Parce que l'objet de traitement est le moins cher possible. C'est le débat. Alors le débat, vous pouvez en faire toute la journée sur votre télé, ça va vous coûter 0 francs, 0 centime. En plus, les débatteurs ne sont pas payés, contrairement aux États-Unis.
Mais qui décide quoi? Parce que les médias suivent en quelque sorte.
Mais c'est du suivisme, c'est Peter Watkins, il raconte ça très très bien. C'est pas facile non plus. C'est-à-dire que ça va tellement vite. On va lire la lettre de Guy Moquet dans toutes les classes de France. On va faire adopter un enfant de la Shoah par tous les gosses. On est obligé de donner l'info, de critiquer, de respirer. Et à côté de ça, il y a peut-être un événement extraordinairement important qui vient de se passer. C'est Reagan qui a inventé ça. Reagan, il est passé d'une époque juste avant lui, avec Carter ou des gens comme Nixon, où on essayait absolument d'étouffer, d'avoir zéro, de donner zéro info. Reagan, il a compris que si on donnait 10 infos par jour, le journaliste, il était paumé, quoi. Il peut pas humainement réagir à 10 infos par jour. Donc on lui sélectionne, hein. On lui donne l'objet, le petit chiffon rouge, et on tombe tous dedans. Tous dedans, ça va tellement vite. Et pendant ce temps, tout le monde est en train de parler de l'affaire des Roms, qui est extrêmement grave, dont on peut penser plein de choses. Et plus personne ne parle d'Eric Woerth, vous avez remarqué. Est-ce qu'on n'a pas sorti l'affaire des Roms pour cacher Eric Woerth?
On revient encore dans le débat sur le temps, le temps médiatique, tout va vite. Ouais. Et le temps de réflexion, où est-il finalement, quoi?
Ben, le temps de réflexion, c'est un temps de réflexe presque dans le journalisme. Le temps de réflexion, il est sur les hebdos, il est sur les magazines, mais sur le journal télévisé, c'est très 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 difficile. Hein. Et donc on est extrêmement vulnérable à toutes les manipulations, extrêmement vulnérable aussi à se faire avoir par des images trafiquées, par des commentaires faux, par des informations. On n'a pas le temps. L'information arrive à 18h, on a une image avec un charnier à Timișoara, il faut y aller, paf. Et voilà quoi, manque de peau, c'est pas un charnier quoi.
Alors l'information justement, où la chercher vraiment? Puis il y a la télévision, la radio, les internet aussi maintenant, et les journaux de presse.
Partout. Le seul truc, c'est ne pas avoir un seul moyen d'information. 75% des Italiens n'ont que la télé pour s'informer. Donc voilà, quand on voit la télévision italienne et qui la commande, voilà. Il y a tellement de gens ici qui ne lisent que le Sud-Ouest. Mais ils liraient le Midi Olympique, c'est pareil, je m'en fous, mais ils n'ont qu'un seul journal. Prenez-en deux. Essayez de trouver un journal où vous vous dites « je ne suis pas tellement d'accord ». Parce que ne pas être d'accord, c'est s'obliger à bouger. Trouver des journaux pour tous les matins pour dire « ah, j'avais bien raison de penser ça ». Mais est-ce qu'on n'achète pas les journaux tous les matins pour entendre qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense?
On est toujours en compagnie de Michel Monpronté, donc de la rubrique Mon œil sur France 2. Qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple des regards critiques de ce que propose la télévision? Il y a eu à une époque Daniel Schneiderman avec Arrêt sur image. Ouais. Vous êtes un peu dans ce sens-là?
Daniel Schneiderman, qui a plein de qualités, plein de défauts, c'est pas quelqu'un, c'est pas un fabricant. Moi, je suis un fabricant. Moi, je sais comment ça marche de l'intérieur. Lui, mais comme Bourdieu, comme tous ces des gens très respectables qui ont réfléchi sur la fabrication des journaux télévisés, même Peter Watkins, pour qui j'ai la plus grande estime, ils n'ont jamais été dans la machine. Par exemple, ils ne savent pas pourquoi. Est-ce que, ils se disent, à la télévision, on ne filme plus d'opéra, on ne s'intéresse plus à la musique, c'est un scandale. Mais c'est pas vrai. À la télévision, il n'y a plus de preneurs de son. Parce que la convention collective fait que les preneurs de son coûtent trop cher, puisqu'ils sont passés en heure supplémentaire réelle. Donc ils coûtent trop cher. Il n'y a plus de preneurs de son, il n'y a plus d'opéra. Il n'y a pas de décision idéologique. Ce genre de principe, moi de l'intérieur, je sais comment ça marche. Schneiderman, non. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Hein. D'ailleurs, Schneiderman est un journaliste qui ne nous a jamais fait signe. Alors qu'il y a plein de gens dans les médias qui nous disent « Allez, formidable ce que tu fais, non, j'aime pas du tout ce que tu fais, vas-y mollo. » Schneiderman, jamais. Alors qu'il pourrait dire « Voilà, quelqu'un qui fait une lecture critique des médias, je pourrais rentrer en contact avec lui, m'intéresser à ce qu'il fait. » Jamais. Parce qu'il ne sait pas, il sait de l'extérieur. Il n'a jamais fabriqué un journal télévisé, il n'a jamais fait un reportage de sa vie en télé. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de parler de la télévision, hein. Il est souvent très pertinent. Hein. Mais il ne sait pas de l'intérieur. Alors le fantasme prend parfois le dessus sur la manipulation, les images cachées. Voilà, moi j'ai 26 ans de télé, jamais personne n'est venu me dire « cette image tu l'enlèves parce que c'est pas bien, ça a fâché le gouvernement ». Jamais. Ça se passe pas comme ça. C'est plus subtil. Et puis c'est 90 fois sur 100, c'est de l'autocensure, la télévision. C'est de la maladresse, c'est de la bêtise, c'est de l'oubli, c'est j'ai paumé les cassettes, c'est trop loin, si on n'a pas le plein d'essence pour la voiture. Ça explique tellement de choses. La désorganisation chaotique d'une chaîne, les coûts, les rapports contractuels aux employés, le nombre de pigistes, ça explique beaucoup de choses sur la ligne éditoriale. C'est pas la peine d'aller chercher un grand complot de la droite ou de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. 9 fois sur 10, c'est malheureusement que la simple maladresse des hommes.
Alors Michel Monponté, est-ce qu'on pourrait terminer sur cette question ?
Mon taxi arrive. C'est...
Sur la question, quel téléspectateur êtes-vous ?
Alors, il faut que je vous confie un truc, mais je ne devrais pas le confier, donc comme je résiste à tout sauf à la tentation. Je suis un très gros consommateur de séries américaines, hein, avec une fascination pour The Wire, pour les trucs d'HBO, The Wire, Les Sopranos, etc. Mais je suis un téléspectateur qui regarde la télé sans son. Ouais, c'est trop agressif. Je sais pas comment expliquer. C'est moche. Le son de la télévision, 9 fois sur 10, mais désagréable. Parce qu'on n'y fait pas attention. On fait attention à des décors formidables et tout ça. Le son est agressif, les harmonies sont vulgaires. Donc je coupe le son. Et en coupant le son, je découvre plein de choses dans l'image que je n'aurais pas vu si j'avais gardé le son. Je fais ça aussi pour les films d'horreur, par exemple. Ou les films d'horreur, un film terrifiant, vous coupez la bande son, vous n'avez plus peur. Vous voyez toutes les ficelles. Mais c'est le même principe sur les journaux télévisés. Coupez le son, vous allez voir.
Donc c'est au niveau des commentaires, c'est pas au niveau de la musique, puisqu'il n'y a pas de musique dans les reportages chi.
Non, dans les journaux télévisés, il n'y a pas de musique, non. C'est au niveau du commentaire. Sur les journaux télévisés, c'est pas pareil. Mais sur les émissions... Ouais, c'est la présence de l'animateur, quoi. C'est quelque chose de souvent. Et son surlignage permanent de rester là, quelle histoire formidable. Nous avons bien eu raison d'inviter ce monsieur parce qu'il est le témoin qui a le plus souffert. Toutes ces choses-là sont d'une telle vulgarité que je préfère couper le son. Et en coupant le son, on voit. Mais aussi, les informations que je regarde, je les ai déjà lues toute la matinée en tant que professionnel, dans les médias, dans la presse, dans les journaux. J'ai acheté Le Monde, j'ai acheté Libé, j'ai acheté. Voilà. Donc quand j'arrive le soir et que je regarde les images dans l'information, je sais de quoi elle parle. S'il y a une expulsion d'un camp de Rome, je n'ai pas besoin de me dire, il y a 95 Roms qui ont été expulsés pour ci et ça et ça. Non, je le sais. Donc je regarde les images, et dans les images, on voit complètement autre chose. Quoi. On voit une chose qui leur échappe. Parce que même les plus habiles. N'ont jamais réussi à contrôler toutes les images. Il y a le hors-cadre, il y a le hors-champ, il y a l'accident, il y a le truc qu'on n'avait pas prévu dans l'image. Il y a tout ça qui s'échappe. Ça s'échappe constamment, presque sur tous les plans. Si on fait attention presque plan par plan, on dit « Tiens, mais le type derrière, là... Ouais. » Voilà. Toute proportion gardée, c'est l'officier allemand qui est employé, employé est un mot tout à fait déplacé, mais par les SS au camp d'Auschwitz pour bien montrer que le camp fonctionne très très bien. Ce sont des photos destinées à la Gestapo, mais il ne faut absolument pas montrer le fonctionnement du génocide. Et donc il fait des photos de visages joyeux, d'officiers en train de jouer au football, etc. etc. Et dans une des photos, maladroite, il y a un tout petit bord, et on voit une haie, et au-dessus de la haie, on voit une fumée. Mais ça, il n'a pas pu le contrôler. Et c'est comme ça qu'on a eu une des premières images des camps de concentration et des fours en fonctionnement. Le cadre, c'est tellement large. Il y a l'image aussi formidable de Hitler rentrant dans une ville allemande devant 25 000 personnes qui sont là en train de faire le salut fasciste. Et si on regarde à la loupe, il y a un mec qui a les bras croisés et qui ne fait pas le salut fasciste. Il y a toujours un truc qui échappe dans l'image. Et ben, dans les journaux télévisés aussi, c'est impossible de tout contrôler. Ou alors on fait en studio avec des personnages d'animation en 3D. Voilà.
Une belle réflexion en tout cas sur le pouvoir des images. Merci beaucoup Michel Monponté.